Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous. Prenez tranquillement votre petit déjeuner. On va vous accompagner jusqu'à midi, mais vous n'êtes pas obligé évidemment de prendre votre petit déjeuner jusqu'à midi. Mais vous faites comme vous voulez. Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, des affaires sordides et dramatiques ont vu le jour ces dernières semaines, ces derniers jours, entre l'affaire Pogba, l'affaire Emraoui Diallo, l'affaire de la FFF. Êtes-vous dégoûté par le football? Ce sera notre première question. 9h30, la punchline des GG signée du talonneur de l'UBB, Clément Ménadier, qui s'en est pris aux médias cette semaine avec leur polémique à deux balles. Il a demandé plus de soutien. Est-ce le rôle de la presse locale? Et puis 10h, les GG passeront la seconde autour de la finale de l'Euro France-Espagne. Les deux ennemis du basket européen détestaient les Espagnols. Jouer sur la rivalité, est-ce le bon moteur pour cette finale?
Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde, mais ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde.
Eh oui, mais ne vous inquiétez pas les Bleus, ça va bien se passer ce soir et on sera là pour vous accompagner. Le match, c'est à partir de 20h30. Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, contrairement à la Fédération Française de Cyclisme, n'est pas sexiste. Il vit juste avec les codes de 1978. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Bonjour Jean-Christophe, j'ai pas bien compris ta blague là. Il vit avec les
Codes de 78.
Ah, les codes de 60. Ah, bah, même plus qu'avant, tu rigoles, 78.
T'es vieux, t'es sexiste.
Toi t'es jeune et t'es en retard.
Oh, j'en ai eu plus que tu ne crois.
Ne vous inquiétez pas, on va reparler de Simon Dutin dans quelques instants. Une grande gueule qui, contrairement à la Fédé, n'aurait jamais pu aller en Australie en seconde. En même temps, pour elle, il y avait plus de voyages que de séjours en Australie. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonjour.
Salut Sarah.
Il rentre de boîte de nuit, là, vous n'avez pas compris, il est encore complètement bourré. Ouais.
Mais papy, c'est quoi ces accusations là?
Non, j'ai voyagé pendant 10 ans en Australie, mais je vous confirme, c'était bien en seconde.
C'est vrai?
Ben oui, parce que j'avais pas besoin de beaucoup de place. Tu vois,
petit modèle.
Voilà, donc j'arrivais à me blottir en seconde.
Il y a pas trop qui encombrait non plus le bagage et tout ça.
Au retour, non, je te confirme.
Exactement. Une grande gueule qui, contrairement à la Fédération française de cyclisme, n'a pas les moyens de se payer un aller-retour à Bordeaux. Alors imaginez l'Australie. C'est Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC. Écoutez, franchement, tu sais, j'ai bossé ce mois-ci. Je crois que ça fait 4 fois que je fais l'émission en un mois. Franchement, pour un prolo commun, c'est du jamais vu, quoi. Je te remercie d'ailleurs.
Bravo et on te félicite.
Merci, mon
cher Simon. Et puis une grande gueule qui, contrairement à la Fédé de cyclisme, eh bien, bon, il a jamais fait voyager les filles en seconde. Ouais. Bon, en même temps, il a jamais été trop embêté avec les filles à l'UBB. C'est Christophe Furiot. Salut Christophe.
Oui, bonjour.
Ça va Christophe?
Ça va, ouais. Un brin impressionné, mais,
mais
ça va pas durer.
Mais non, ça ne va pas durer. Christophe Furiot, c'est avec nous dans cette émission pour la première fois dans le studio RMC. Christophe, déjà, félicitations pour la victoire hier.
On a gagné? Attends, c'est pas si bien, on a gagné.
C'est un brin charmeur, ça, non?
Bien. Il a jamais perdu contre Castres hein, depuis qu'il a quitté Castres.
Exactement. Et il faut savoir une chose, c'est que Simon Dutin est un grand fan de l'UBB, donc un grand fan de Christophe Furiot.
UBB.
Et nous, on est très heureux, évidemment, de te retrouver, Christophe. Tu vas voir, tout va bien se passer dans cette émission. On va parfaitement t'accompagner et... un petit peu de castagne dans cette émission, mais tu connais le principe des grandes gueules du sport avec des débats qui vont vous intéresser, un programme très riche. On va débuter avec cette citation d'Hippolyte Taine qui a dit un jour qui goûte de tout, se dégoûte de tout.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Paul Pogba devra aussi composer avec l'affaire extrasportive qui touche sa famille et son frère Mathias, toujours en garde à vue pour tentative d'extorsion avec arme en bande organisée.
J'en peux plus.
Joël Le Graët, 80 ans, se voit fragilisé par une affaire qui pollue l'atmosphère de la fédération à 10 semaines maintenant de la Coupe du Monde.
Les agresseurs présumés sont formels. Dans leurs aveux, ils désignent tous Aminata Diallo comme étant la commanditaire. Une incroyable machination entre sportifs de haut niveau.
C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir.
Maintenant c'est le moment des manger la merde, c'est ton moment des merdes.
Mais ça continue encore et encore.
Eh oui, le foot français vit une drôle de période, loin des terrains, près des tribunaux, entre l'affaire Pogba, l'affaire Diallo Emraoui, l'affaire de la FFF. Notre actualité sportive a rejoint la rubrique des faits divers, où il est question tantôt d'extorsion, tantôt de violence aggravée, tantôt d'harcèlement. Bref, un spectacle navrant qui est en train de se jouer sous nos yeux. Alors la musique qui fout les jetons, et cette question ce matin pour vous les auditeurs. Êtes-vous dégoûté du football ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Oui, il y a bien longtemps.
Ok. Christophe Furios.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Attends, je regarde ce que je t'ai répondu.
C'est non.
C'est non. Non, je ne suis pas dégoûtée.
Simon Dutin.
Non, mais je vais te dire pourquoi.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG.
Salut Nico.
Alors ces dernières heures, c'est l'affaire Diallo Emraoui qui a connu un revirement spectaculaire.
Oui, il a donc fallu 10 mois d'enquête à la brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles pour démêler les fils de ce dossier. Tout a basculé vendredi matin lorsqu'Aminata Diallo a été interpellée et de nouveau placée en garde à vue. Face aux enquêteurs, la joueuse a fait valoir son droit au silence. La juge d'instruction chargée du dossier l'a ensuite mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs pour son rôle présumé de commanditaire dans l'agression d'Amraoui. Elle a été placée en détention provisoire à la prison des femmes de Versailles dans l'attente de son débat différé devant le juge des libertés qui aura lieu mercredi. Les investigations semblent désormais confirmer la thèse d'un contentieux sportif. L'analyse de l'ordinateur portable d'Aminata Diallo ces derniers mois a révélé des surprises aux enquêteurs. Le 30 octobre 2021, quelques jours avant l'agression d'Amraoui, Diallo aurait ainsi fait la recherche cocktail de médicaments dangereux sur un moteur de recherche. Et une autre, encore plus troublante, la veille de l'attaque, casser une rotule. Ce matin, dans le JDD, Kaira Amraoui estime qu'elle n'a pas subi une, mais plusieurs agressions. À celles physiques se sont ajoutées des agressions morales. On m'a traîné dans la boue. Sur le plan sportif, selon nos informations, le club de la capitale ne change pas sa position avec Kaira Amraoui. La milieu de terrain internationale n'entre pas dans le projet sportif parisien cette saison et reste à l'écart du groupe. De son côté, Aminata Diallo reste présumée innocente. Et dans une autre affaire, celle de la tentative d'extorsion de Paul Pogba, hier soir, son frère Mathias a été mis en examen et placé en détention pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Évidemment, on prendra du conditionnel sur toutes ces affaires, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi dans notre société, peut-être avec notre football. En tout cas, elles se multiplient ces dernières semaines. Êtes-vous dégoûté par ce football? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Pourquoi oui, Christophe Cessieux?
Écoute, moi, ça fait bien longtemps que ce milieu-là me débecte et les affaires qui se multiplient en ce moment n'arrangent vraiment pas les choses. Après, il faut bien faire la différence entre le jeu de football, son histoire, ses légendes, ses matchs incroyables, ce feuilleton toute l'année qui évidemment continue de me fasciner et ses acteurs qui, eux, sont de plus en plus débectants. C'est de plus en plus difficile de faire la part des choses. Aujourd'hui, quand je vois un match ou quand je vais voir les matchs du PSG féminin maintenant, forcément, je vais avoir en tête ces images, les choses que rappelait Nicolas il y a quelques instants. Quand je vais voir le président de la Fédération française de football remettre des trophées, et je ne pourrais pas m'empêcher de penser à ce qui se passe au sein de la fédération, ces entraîneurs qui font a priori acte de certains, en tous les cas, de pédophilie. Je ne vais pas, sans parler de Mendy, on n'a pas parlé de Mendy aujourd'hui quand même. Champion du monde,
tu vois.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Tu veux
m'agresser? Vas-y, allez, rentre-moi dans l'art. Vas-y, Simon.
Ton con, désolé.
Non, écoute, je suis en train de.
Le fait qu'on énumère tous ces trucs, je suis désolé, c'est la preuve, on parle pas de la même chose à chaque fois.
Ce ne sont que les acteurs du foot, les présidents, les entraîneurs, les joueurs, les joueuses. Eh ben, t'acceptes pas, eh ben, d'accord. Mais moi, je te dis ce que je pense.
Ça me désole, mais j'accepte pas. C'est pas les mêmes affaires, Christophe.
Évidemment, c'est pas la même affaire. C'est une succession d'affaires
affaires qui se juxtaposent. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de ras-le-bol quand même quand tu vois tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu regardes et tu ressens les choses du football? Est-ce que tu arrives encore à t'enthousiasmer? Est-ce que tu crois que les gamins qui sont entraînés par des bénévoles, quand ils voient ce qui se passe au sommet du football, ils ont encore envie de faire des choses pour ces gamins? Ils ont pas envie de tout laisser tomber? Excuse-moi, mais moi ça me dégoûte. J'en ai ras-le-bol. Je veux plus entendre parler de foot. Voilà.
Ok, merci Christophe. Au moins c'est clair et c'est précis. Pourquoi tu dis non, Sarah?
Pourquoi je dis
tu
non?
Tu retiens avant tout le sportif. Alors, ce sera plus fort que tout, quoi qu'il arrive.
Je retiens le sportif, non, mais quand on va commencer à parler de la Coupe du Monde, on parlera de la Coupe du Monde et ces affaires-là, elles passeront en second. Cependant, ces histoires-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas que du foot. Ces affaires-là, ces faits divers, on en a eu dans d'autres sports, des choses qui étaient complètement insensées. Et en même temps, ça reflète notre société. Les sports qui génèrent énormément d'argent ou énormément de pouvoir, eh bien en fait, elles peuvent faire complètement péter les plombs à certaines personnes.
Mais que tu aies une affaire de temps en temps dans une discipline,
mais là
c'est l'accumulation.
L'accumulation, mais c'est sur une période.
Mais c'est tout le temps, Sarah, tout le temps.
Mais il y a
quand
plein
c'est
de
pas
choses.
Les histoires de supporters qui se battent entre eux, qui cassent tout dans les tribunes. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça touche toujours la même discipline, les gars.
Discipline, pourquoi? Parce que l'essence même du foot, et on le sait, on l'a dit plein de fois ici, l'essence même du foot, ici, ça représente notre population, ça représente l'idée de notre pays, et on se demandait toujours pourquoi dans les tribunes, il y avait des gens qui ne savaient pas se comporter. Mais parce que c'est un exutoire complet, ce sport. C'est un exutoire complet.
Donc les acteurs aussi
Non, pas les acteurs, il y a des dérives, mais le foot inspire ce genre de choses, malheureusement.
Je marque juste un petit temps mort, juste pour faire un point avec Christophe Furio. Comment ça se passe en direct là? C'est impressionnant aussi à voir dans le studio.
Il y a un match. Il y a un match.
Ouais.
Ouais, a un match.
On est d'accord.
Pour le moment, je regarde.
Christophe, l'homme du rugby qui voit tous ces faits divers dans la presse, il se dit. Il y en a marre, ça me dégoûte, j'en peux plus.
Ouais, après, je suis un amoureux du sport, je suis un amoureux du football notamment. Mais effectivement, pour moi, ça dépasse évidemment le cadre du sport. Et comment on peut arriver à des choses pareilles, quoi? C'est incroyable. Le sport, c'est quand même la rivalité avec l'adversaire, mais c'est aussi la rivalité, la concurrence entre le groupe, et ça s'explique sur le terrain. C'est pas autrement, quoi. Comment on peut en arriver là? Comment dicter des choses pour détruire une collègue, finalement, une copine, quoi? Donc, pour moi, c'est...
Ça me
dégoûte parce que en même temps c'est aussi le reflet de la société comme tu le disais Sarah quand même, mais en même temps je suis assez d'accord avec Christophe quand il y a toute cette accumulation de choses qui font que dans la même discipline on est en train de je sais pas si les gens se rendent compte mais on est en train de faire du mal au football à mon sens quoi.
Du mal au football, quand on est entraîneur de rugby et qu'on voit toutes ces affaires, quand on voit que, évidemment, pour l'instant, il y a la présomption d'innocence, et c'est important de le préciser pour Aminata Diallo, mais quand on voit qu'une joueuse pourrait commanditer ce genre d'agression sur une autre joueuse, qui est en l'occurrence sa partenaire, peut-être rivale, ok, mais partenaire, toi, les bras t'en tombent, ou tu te dis, c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé, ça.
Oui, mais vous souvenez l'histoire du patinage?
C'était pas sa partenaire.
Non,
elle n'était pas dans la même équipe.
Non, mais bien sûr, mais enfin, elle venait d'arriver, Amraoui venait d'arriver, En patinage entre Harding et Kerrigan, ça a fait l'histoire d'un film.
Là, en l'occurrence, elles étaient rivales pour une médaille olympique.
Oui, mais enfin, là, elles sont rivales pour le même poste. Enfin,
c'est une histoire de poste. Elles portent le même maillot, quoi.
Oui, enfin bon. Si le foot était un sport d'équipe,
on a été complices de rien lorsque, souvenez-vous, des coéquipières d'Aminata Diallo en équipe de France ont fait le A pour célébrer le but de l'une des deux en soutien à Aminata Diallo. On a tous souligné, regardez, elles sont copines avec Aminata, elles soutiennent leurs copines. Ah, elles ont bien respecté la présomption d'innocence, les copines. Elles ont pas oublié la présomption d'innocence, le principe ultime.
Peut-être
c'est
mais chacun fait ce qu'il veut, mais dans cette émission. Dans cette émission, en tout cas, on la préservera et après.
Je suis en train de dire que tout le monde l'a préservé.
Mais on sait que les joueuses du Paris Saint-Germain, et ça a été problème pour Kera Emraoui, c'est que les joueuses du Paris Saint-Germain ont soutenu et se sont mises dans un camp. Et on sent qu'il y a ce revirement de situation c'est très compliqué au PSG.
On saura un jour ce qui s'est passé. Mais souviens-toi, trois jours avant cette affaire, on apprenait sur RMC Sport et sur le site de l'équipe que Kera Emraoui avait mandaté un huissier pour venir faire constater le fait qu'elle était mise à l'écart de l'entraînement du Paris Saint-Germain. Or, aucune explication de la direction du Paris Saint-Germain concernant cette affaire. Non, cela n'a rien à voir. On souhaite juste se séparer de cette joueuse. Et du coup, on l'a fait s'entraîner à part. Ce qui est, même si le foot féminin est désormais traité de la même façon que le foot masculin, ce qui est rarissime, elle était la seule dans ce loft au Paris Saint-Germain.
Bien sûr. Exactement. Christophe, je voudrais revenir. Deux joueurs de rugby, est-ce que c'est aussi ça qui te choque, c'est de te dire que en fait, ça n'arriverait pas dans d'autres sports. En tout cas, ça n'arriverait pas au rugby, ce qui s'est passé en foot, ou si on n'est jamais à l'abri.
Moi, je vais me garder de donner des leçons, quoi. Parce qu'évidemment que ce qui se passe dans le football aujourd'hui, ça peut très bien arriver avec l'évolution de notre rugby. Parce que notre rugby est en train d'évoluer aussi, hein. Donc voilà. Après, les bras m'en tombent, effectivement, quand je vois que deux partenaires, sont capables d'en arriver là, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Quand nous, managers ou entraîneurs, ben, tu travailles sur la cohésion, tu travailles sur l'esprit commun, être ensemble pour aller décrocher un titre, quand elle arrive à je sais pas si c'est la vérité, quand même, évidemment. Mais quand elle arrive à détruire l'autre pour prendre sa place, ça fait flipper, quand même.
Mais pour le coup, Christophe, tu crois pas que dans les groupes comme, par exemple, le PSG, c'est la deuxième plus grosse équipe, tu penses pas qu'il y a quand même la place pour qu'il y ait, je sais pas, deux, trois joueurs qui se détestent?
Oui, mais bien sûr, mais je suis pas naïf, quoi. Je sais bien quand même, dans des groupes, alors, dans le foot, ils sont pas très nombreux. Nous, dans le rugby, par exemple, on est 45. Donc, 45, ils partent pas tous en vacances ensemble, les mecs, hein. Évidemment. Même si, à un moment donné, il y a ce qui se passe en dehors du terrain, ce qui se passe sur le terrain, quoi. Alors, il faut être capable de faire cette différence-là. Mais de là, à détruire la personne qui peut éventuellement prendre la place, j'ai du mal à le croire aujourd'hui. Nous sur le terrain et dans le rugby, on a cette capacité, on a un sport de combat. Donc quand les mecs se sont en concurrence, ça se règle sur le terrain. Et je suis toujours surpris, par exemple, quand moi j'ai des joueurs qui sont en concurrence et qui sont copains comme un cochon, quoi. Je leur dis souvent, mais je n'arrive pas à le comprendre. On peut se respecter, mais à un moment donné, il faut.
Mettez-vous des poires.
Mettez pas des poires, mais comment on peut être extrêmement copain ensemble en permanence quand tu joues pour le même poste? Moi, c'est des trucs qui m'échappent, quoi. Encore une fois, c'est pas qu'on doit pas respecter l'autre, mais. Mais en même temps, quand il y a un entraînement où il y a deux Marocains qui partent, je suis content quand même. Hein. Ça veut dire que le groupe vit et ça remue le sang. Hein.
Et le groupe vit bien, exactement. Ouais. Mais la question que l'on peut se poser, parce que ce matin, je vous demande, vous, votre sensation, est-ce que vous êtes dégoûté par le foot? Mais on peut se demander aussi si le public va à un moment donné décrocher et se dire... De plus en plus, ok, si c'est avec toutes ces histoires, parce que quand on regarde aujourd'hui, mais même pas des chaînes sportives, des chaînes d'infos, on ne parle que de ça.
Justement, excuse-moi, c'est pas du foot en fait.
Non, c'est les faits divers. C'est la rubrique des faits divers.
Lorsque tu vois que nos copains en face du studio de RMC s'en emparent à BFM, c'est pas du foot. On tombe dans la rubrique faits divers, police, justice, et il y a qu'à voir sur le plateau de BFM, c'est pas un mec de chez nous, de RMC Sport, qui vient pour parler de l'affaire. C'est un mec de la rubrique police, justice, et qui vient nous raconter que le procureur ceci, la police judiciaire cela. Et moi, c'est en ça que je suis pas d'accord avec Christophe, c'est que ça me dégoûte pas du foot, parce que quand Christophe parle, moi, j'ai l'impression d'entendre. Franchement, ça va lui faire plaisir, salut papa. J'ai l'impression d'entendre mon père qui me dit c'est des voyous, y en a marre. C'est pas du foot. C'est pas du foot.
Le sportif avant tout.
C'est le but de Haaland cette semaine contre Dortmund.
L'image qu'on a du sport, ce sont des règles, des codes, une éducation et des valeurs. Et c'est ça qui nous choque. Et comme on est choqué, effectivement, que le sport nous amène dans des terrains de faits divers, de polémiques, de police justice, de criminalité à un moment ou un autre, eh bien, en fait, on a l'impression que toutes les valeurs du sport s'écroulent. Mais pas pour autant.
Mais j'ai compris que la jeune génération adorait ce genre de
fait
divers.
Il y a un effet de loupe en plus sur le foot qui est le sport le plus regardé.
Non, mais c'est un effet de juxtaposition.
C'est
l'accumulation
des
histoires. Tu n'as pas une semaine sans qu'il y ait une affaire dans le foot. Et c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Enfin, Simon. Alors, si tu arrives à te détacher complètement à garder ton œil de jeune passionné de football, tant mieux. Moi, j'y arrive plus. Voilà, c'est tout.
Je suis peut-être un vieux con, mais c'est comme ça. Extorsion pour les Pogba. agression en bande organisée pour les filles du PSG, avoue que ça arrive pas toutes les semaines. Ok, il y a des histoires de supporters, je suis d'accord. Il y a des histoires de bagarres.
On a fait tous les débats. Tu étais ici, tu l'as fait l'émission l'année dernière, il me semble, non? T'étais un peu là. Tu te rappelles pas que chaque semaine, on faisait une histoire différente sur le foot. Les histoires de supporters, il y en a eu tout au long de l'année.
Mais il y en aura tout au long. Nicolas, c'est l'histoire du sport. L'histoire du foot
n'a pas totalement raison. C'est que c'est pas du foot, oui, mais ça a une conséquence sur le foot. C'est-à-dire que ça a une conséquence sur le sportif. Paul Pogba, c'est une conséquence sur le sportif. Aminata Diallo, c'est une conséquence sur le sportif. Noël Le Graët, c'est une conséquence peut-être sur l'équipe de France. Donc, c'est une conséquence sur notre sport, en fait.
J'entends ton argument.
Le mot de la fin.
Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça peut avoir une conséquence, mais Pogba, on n'est pas sûr que ça.
Psychologiquement, ça a un impact.
Le frangin. Bon, ça va, les mecs, ils sont fragiles quand même. Hein.
En tout cas, si on en parle dans cette émission, c'est qu'il y a forcément un lien avec le sportif. Il est 9h28. Si vous voulez réagir à ce débat, n'hésitez pas. 11h40, ce sera votre moment. Vous composez le 32-16 et vous venez évidemment vous expliquer avec une GG. On revient dans quelques instants. La punchline des GG, signée, servie sur un plateau, sur mesure. À mon avis, le talonneur de l'UBB savait que Christophe Furios allait venir dans cette émission. On en parle dans quelques instants. Débat très intéressant à avoir tout de suite.
RMC, 9h midi.
Il est là.
Les grandes gueules du sport.
J'ai une tendinite au bras.
Je m'en fous.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Christophe Cessieux, Simon Dutin, Christophe Furios, Sarah Pitkowski. Sachez que dans une dizaine de minutes, un premier zapping des GG, vous avez entendu le petit je m'en fous célèbre désormais de Christophe Furios dans cette émission. J'aurai quelques informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non, en toute liberté évidemment. Par exemple, j'ai le Real Madrid qui veut organiser une rencontre Federer-Nadal. Federer qui a donc annoncé sa retraite, ce sera dans une semaine après la Lever Cup. Est-ce que ça vous intéresse? Ce sera dans une dizaine de minutes. Il fait rarement le voyage pour rien, sur le terrain comme devant les micros. Le talonneur de l'UBB, Clément Ménadier, l'un des cadres de notre GG, Christophe Furios, avait un message à faire passer aux médias cette semaine, coupable, selon lui, de lancer des polémiques à deux balles plutôt que de soutenir le club. C'est la punchline des GG, Clément Ménadier.
RMC, la punchline GG.
Je vous demande pas de mentir dans vos articles, mais je vous demande juste de dire la vérité et d'être des journalistes de club, quoi. Je veux dire, ceux de La Rochelle, ils aident La Rochelle. Ceux de Toulouse, ils aident Toulouse. Ceux de Brive, ils aident Brive. Quand vous venez ici, quand on perd, c'est... voilà. Quand on gagne, ça va pas non plus, voilà. Je suis obligé de vous le dire. Quand tu poses la question sur la tête de Turc de Mathieu, si on veut faire du Gala et du Voici, ben abonnez-vous à Gala et à Voici, quoi. Franchement, nous, on vient là, on vient pour faire du rugby. Donc, toutes vos polémiques à deux balles de côté, non, c'est fini, quoi. Je pense que Christophe et Laurent, on vous ouvre les portes. On est bonnards avec vous, on vient. Et vous, derrière, vous nous saccagez.
C'est clair, c'est dit, emballé, c'est pesé. La question pour vous, les GG, vous l'avez entendu au début de l'extrait. À La Rochelle, on soutient La Rochelle. À Toulouse, on soutient Toulouse. Mais pas forcément à Bordeaux. La presse locale, doit-elle soutenir son club? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Christophe Furios?
Je crois pas.
Bah non.
Sarah Pitkowski? Simon Dutin?
Non, mais je crois que tout le monde est d'accord là-dessus.
Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi non, Sarah?
Pourquoi non? Parce que c'est un peu pieux de penser que les journalistes vont être cléments... avec Clément et d'autres d'ailleurs, mais c'est pas le rôle de la presse. En revanche, la force d'un sportif, c'est d'avoir le micro devant la bouche et de pouvoir dire les choses clairement, de renvoyer dans ses 22 un journaliste qui part sur
mais
un sujet qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Et là, en l'occurrence, c'est très bien, mais de demander qu'un journaliste ou qu'une presse locale soit véritablement clémente ou soutienne. Je pense qu'il soutient. Enfin, on n'est pas des bisounours. Il faut en vendre du papier, hein, donc il faut raconter des polémiques. Mais quand elles ont rien à voir avec l'histoire, en l'occurrence de dire qu'un club est en mauvaise passe après une demi-journée ou une journée et demie de championnat, bah, c'est très
bien. Mais
il remet les choses au point.
Exactement.
Et c'est le journaliste et c'est la presse locale qui se rend ridicule sur ce moment-là dans les 20 minutes qu'a lieu la conférence de presse.
Parce qu'on les connaît, les conférences de presse, et les questions reviennent inlassablement, et évidemment, je pense que Christophe Furios ira certainement sur ce sujet-là. Il y a un moment donné, on a envie de parler d'autre chose que seulement ce qui intéresse les journalistes. Christophe Cessieux.
Oui, non, mais je comprends ce que doit ressentir Clément. C'est vrai que début de saison, t'as l'impression qu'il y a un acharnement contre ton club, contre ton équipe. On ne parle que de Mathieu Jalibert, et est-ce qu'il va pas bien, et pourquoi il rate
ses pénalités et pourquoi il se fait contrer, et lui qui est la star du rugby français. Alors je comprends que quand t'es au sein du club, t'as l'impression que c'est de l'acharnement, mais je pense pas que les journalistes de la presse de la PQR doivent être supporters de leur club, même si la plupart des gars le sont en plus, parce que quand t'es à Bordeaux, tu n'as qu'une envie, c'est que ton club gagne. Quand t'es à Toulouse, t'as qu'une envie, c'est que le Stade Toulousain l'emporte.
Oui, parce mais que en tu même veux temps, venir voir les demi-finales, mais, et tu mais, veux mais, monter mais, au Stade mais parce de France que
tu t'attaches au mec de ton club,
parce que t'habites dans le coin, parce que c'est ta région,
parce que c'est ton club que t'es allé soutenir, dans lequel t'as peut-être joué quand t'étais gamin. Donc forcément, t'es attaché à ce club. Donc de dire que les journalistes locaux sont anti, non. Et d'ailleurs, je pense que Clément se trompe, parce que à Toulouse, la Dépêche, ils sont pas supporters du Stade Toulousain. À Clermont, la Montagne non plus, et à Toulon, Varmatin non plus. C'est juste comme ça. C'est effectivement, dès qu'il y a une petite polémique, dès qu'il y a un petit truc, bon, on est journaliste, et en plus, en haut, on nous demande d'aller
gratter
et gratter. Ouais, donc forcément, on en fait peut-être plus que la presse nationale en fait sur le sujet.
C'est ça. Voilà, oui, c'est mais ce que tu dis, c'est que la presse nationale n'a pas vocation à être supportrice, quoi qu'on a déjà eu ce débat, par exemple, avec une équipe de France, mais la presse locale est un peu plus de proximité.
Elle fait une demi ou un quart de page sur l'UBB, là où Sud-Ouest va faire deux pages et demie, donc forcément, c'est pas... Tu peux pas t'attaquer à la même chose. Comme disait Christophe, la PQR, elle est déjà supportrice de son club. Elle est déjà supportrice. Il y a qu'à voir quand ça marche bien... C'est un business, c'est du donnant-donnant.
Oui.
Quand l'UBB met, si l'UBB met 40 points à Toulouse, Sud-Ouest, ils font leur une là-dessus.
Oui, mais en même temps, c'est normal.
Mais c'est normal parce que pourquoi? Parce que le mec qui prend son petit-déj le dimanche, il est content, il a envie de voir le compte-rendu du match et il a envie de lire, je suis désolé, t'as envie de lire le journaliste. Marc, qui se gargarise, quoi. Il a aimé la performance, il a aimé le coaching de Christophe Furios, il a aimé la performance des arrières de l'UBB. C'est du donnant-donnant, c'est comme ça marche comme ça. Et effectivement, mais je suis sûr que Clément Ménadier, il le sait au fond de lui, la presse, elle est pas là pour le soutenir. La presse, elle soutient déjà son équipe. Sud-Ouest, en l'occurrence, ils ont besoin de l'UBB pour vendre leur papier, ils ont besoin des Girondins pour vendre leur papier. Et effectivement, la presse n'a jamais été
à la progression d'une équipe.
Tu sais, la NBA, le championnat de basket, il y a les matchs qui sont diffusés sur les télés nationales. Tous les matchs qui ne sont pas diffusés sur la télé nationale, il faut soit t'abonner sur l'application de la NBA, soit et quand tu t'appuies. Lorsque tu t'abonnes, tu as en fait des couples de commentateurs. Et généralement, c'est un ancien joueur de l'équipe et un journaliste qui est totalement dédié à la franchise.
C'est ce qui se fait aussi dans les radios locales, en foot, hein. dans toutes les régions.
Exactement.
France Bleu, Gironde.
Et du coup, si l'équipe perd, eh ben tout d'un coup, les mecs, tu les entends plus. Il n'y a plus personne. Dès qu'il y a un panier de l'équipe adverse, c'est genre oh là, bien joué, super. Et tu vois, ça tue un petit peu la façon de raconter le sport et de vivre les émotions. Je trouve.
Christophe Furios, sur ce débat, évidemment aussi concerné, même si on essaye de l'élargir aussi à la presse locale, peu importe le club. Christophe Furios.
Ouais, effectivement, c'est un débat qui est passionnant. Qui est passionnant et qui me touche particulièrement puisque c'est mon club. Mais on va l'élargir un peu sur un plan général, quoi. Je crois pas que c'est ce que Clément a voulu dire, quoi. Même si à la fin de ce qu'on entend, il parle de Brive, les journalistes aiment Brive. Je suis pas non plus d'accord avec vous dans le sens où je suis pas sûr que les journalistes soient du coin, quoi. Parfois ils sont du coin, parfois ils sont mutés. Donc ils découvrent l'activité. Parfois ils sont au rugby, passent au foot. Parfois ils sont à Bordeaux, puis ils vont à Toulouse. Donc il y a un attachement au club qui est plus ou moins vrai. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle de Clément Ménadier, on parle d'un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui est un garçon qui est international, qui est ingénieur. Donc, c'est pas un mec hors sol. Parce que ça peut arriver, ça aussi. Hein. C'est pas un mec hors sol, c'est un mec qui est quand même plutôt bien dans ses baskets et plutôt à l'aise avec ça, quoi. Et quand il dit arrêtez de dire des conneries, et quand il parle comme ça, il veut pas qu'on mente. Il le dit d'ailleurs. On n'a pas besoin qu'on nous dise quand c'est nul, c'est bien, quand c'est bien, c'est super bien. On n'a pas besoin de ça.
Mais pas d'inventer des choses, en
voilà.
Fait. C'est ça.
C'est pas d'inventer des choses et de dire des conneries. Et surtout. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans notre fonctionnement, il le souligne un peu quand il dit que Laurent, qui est notre président, et moi-même, on ouvre les portes. Parce que moi, mon fonctionnement, c'est celui-là. Moi, je crois que j'aime être avec la presse. On dit assez souvent que je suis un bon client. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais moi, en tous les cas, la presse, pour moi, c'est un partenaire de mon sport. Voilà. Et d'autant plus quand je suis dans mon club, c'est un partenaire de mon territoire. Et je veux qu'on parle de mon club, parfois quand c'est bien, parfois quand c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas le problème. Mais par contre, je veux pas qu'on dise des âneries. Et surtout, je veux pas qu'on déforme les choses. Surtout quand c'est chez nous, quoi. Je vais vous prendre un exemple précis. Dans mon fonctionnement, quand on finit la saison, par exemple, on fait l'année dernière, on finit en demi-finale contre à Nice contre Montpellier, le samedi, le mercredi, je fais un bilan de la saison avec tous les journalistes. J'invite tous les journalistes. Donc, ils viennent ce qu'ils veulent venir, il n'y a pas d'obligation. Je fais un bilan de la saison. La saison, comment elle s'est passée, les problèmes qu'on a rencontrés, les sujets à traiter pour la saison d'après. On est trois jours après le match, hein.
Ah, c'est le mercredi d'après.
Le mercredi d'après. Okay. Pas trois semaines après, c'est le mercredi d'après. Quand on reprend la saison, on reprend la saison le lundi 25, le mardi 26, je fais une conférence de presse pour expliquer comment on va travailler la saison. Je le fais pas pour être bien avec le journaliste, j'en ai rien à cirer. Je fais pas ça pour faire le beau, j'en ai rien à cirer. Je fais pas ça pour défendre mon club, un petit peu probablement. Mais je fais ça surtout pour qu'on puisse avoir une bonne relation. Mmh. Parce que je crois que c'est ça qui est important. Les journalistes ont besoin de nous, nous on a besoin des journalistes. Et je veux que plus cette relation elle est forte et elle est précise et elle est honnête, mieux c'est. Et je trouve que depuis la fin de la saison dernière, on n'est pas épargné. Mais probablement qu'on l'a voulu, probablement qu'on l'a mal géré. J'ai trouvé que la presse locale, la fin de la saison dernière, était plutôt clean. Il y a eu pas mal d'affaires, la mienne quand je me suis frité avec Mathieu et Cameron, tout le monde est cherché à comprendre pourquoi.
J'allais te poser la question, tu trouves qu'il y a eu une différence dans le traitement, oui. Justement, de cette situation, que tu appelles cette affaire avec Jalibert et Woki et la presse nationale?
Christophe. J'ai trouvé que la fin de saison dernière, ils étaient plutôt dans la mouvance du club. Pourquoi pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi on gagnait pas, etc. Mais il n'y avait pas de points précis à ce niveau-là. À la reprise, j'ai senti quelque chose de différent. Comme si on était obligé de se mettre à la page, en fait. Comme si on était obligé de parler des choses. Je vais te prendre un exemple précis. Et c'est ce qui m'a mis un peu hors de moi. Et c'est pour ça que ça a été repris par Clément et d'autres. Quand on pose la question, on joue le Stade Toulousain la première journée, on pose la question, quel est le facteur pour faire une équipe en début de saison, en sachant que vous avez 42 joueurs? Facteurs, ils sont assez simples. Ma priorité 1, la priorité à ce qu'on reprit le 25. 25 juillet, date de la reprise de notre intersaison. La deuxième priorité, c'est ceux qui pensent que le collectif est premier. Parce que la fin de saison dernière, on a mal vécu notre collectif. Et enfin, la troisième chose, c'est la performance des gars. C'est clair. On me pose une question, je réponds de façon très claire, précisément. Mathieu commence par le match. Mathieu commence pas le match contre Toulouse. On me pose la question, pourquoi Mathieu commence pas le match de Toulouse? Mathieu devait reprendre le 15, c'est-à-dire trois semaines après les autres.
15 août au lieu du 25 juillet, voilà.
Parce qu'il était en tournée, donc décalé. Oui. Il devait reprendre le 15. Quand il reprend, il est malade. Angine, carabiné. Il reprend que le 22. Le 22, il a une reprise plutôt
possible.
Remise en route. Pas possible, mais remise en route. C'est-à-dire que finalement, il reprend une semaine réellement avec le groupe. Il joue pas à Bayonne parce qu'il n'avait pas le droit de jouer à Bayonne. Il joue une mi-temps contre l'ASM, le dernier match de préparation. Il n'attaque pas le match. Ça me paraît être évident, quoi.
Et eux, ils en font une polémique. Et eux, ils vont chercher.
Une polémique en disant, Mathieu n'attaque pas le match, donc
comme ça voudrait dire que
les histoires de la fin de saison sont terminées.
Alors que tu avais donné les critères
Et c'est ça qui me gonfle, quoi. Et avec les relations que nous avons, que je cherche à mettre en place, c'est pas pour me mettre après dans mon côté, même si ça fait partie du jeu, hein. Mais c'est que j'ai toujours pensé que la presse devait avoir accès à beaucoup de choses pour bien travailler, et notamment la presse locale. On les voit tout le temps, ils sont tout le temps là, ils sont aux conférences de presse en permanence. C'est pas les journalistes parisiens, ils viennent jamais eux. On les voit jamais, eux. Eux, ils regardent les conférences par TV.
Ils parlent de Wilfried Templier, je crois.
Non, de nous, mais moi, je suis d'accord.
Et bien d'autres. Mais alors qu'eux soient un peu déconnectés, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Qu'eux veulent faire du buzz. On le sait comment ça fonctionne, et pas dès la peine de 6 semaines. Mais là, quand même, la presse qui sont avec nous en permanence, qu'on soit capable de faire des débats.
En fait, ils ont un devoir d'être précis. par rapport aux informations qui leur sont diffusées.
Donc, si je comprends bien, la presse locale doit pas soutenir son club, mais tu es beaucoup plus exigeante avec elle parce qu'elle est au quotidien avec le club. Okay.
Et ça, c'est normal. Et puis, si il y a des questions emmerdantes, on peut en parler. Il y a de l'offre, il y a du des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire. On échange. Tout est ouvert. Ils peuvent m'appeler le dimanche, le samedi, n'importe quand. À partir du moment où on fait bien notre boulot. Je veux pas que la presse soit. Je veux pas des supporters. J'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je veux qu'on travaille ensemble.
Eh bien voilà, c'est dit dans les grandes gueules du sport. Il est 9h46. Il a réglé le débat, Christophe Furios. On se retrouve dans quelques instants pour la punchline des GG. On s'en fout pas. Une rencontre Federer-Nadal au Bernabéu. Ça vous tente? Ça vous intéresse? On verra. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h49, de retour dans les grandes gueules du sport, toujours avec Christophe Furios, Christophe Cessieux, Simon Dutin, Sarah Pitkowski. Ce matin, ce sont nos GG. À partir de 10h, nous allons ouvrir le dossier basket, la finale de l'Euro, France-Espagne, nos ennemis depuis quelques années. Jouer sur cette rivalité, est-ce le bon moteur? On se posera la question. Stephen Brun, l'ami, vous le savez, on voulait faire les. Une vraie connaissance, une vraie prise de contact avec Christophe. Et malheureusement, quand Christophe vient à nous, c'est Stephen Brun qui n'est pas là.
Il a eu peur.
Il sera avec nous en direct d'Allemagne, évidemment. Et puis, sachez que Nicolas Batum, lui qui a connu beaucoup de France-Espagne, viendra nous raconter son expérience. 9h50, donc tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Je redonne la règle pour Christophe, c'est sa première cette saison. Si on me dit je m'en fous, mais qu'au final on a envie de réagir, ce n'est pas possible, car évidemment, stratégiquement, vous n'avez pas fait le bon choix.
Du coup, tu as compris, tu dis je m'en fous pas.
La première information dans le zapping des GG à vous donner, le Real Madrid qui va organiser une rencontre Nadal-Federer. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Alors, je m'en fous, mais je m'en fous pas.
Donc, j'ai quelque chose
à
dire.
Après, t'as toujours celui à qui on demande une réponse et qui te la donne jamais clairement.
Oui, c'est une spéciale de Denis Charvet. Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas.
Ok. Christophe Furios.
Ouais, je m'en fous pas.
Ok. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Selon ESPN et AS, le Real Madrid pense à organiser un match de gala entre l'un de ses plus grands fans, Rafael Nadal, évidemment, et son ex-rival, futur retraité, Roger Federer. La rencontre de prestige se déroulerait devant 80 000 spectateurs au stade Santiago Bernabéu. Si le projet aboutit, il ne devrait pas avoir lieu avant l'été 2023. Alors vous allez me dire, oui, mais
dépêchez-vous quand même.
Non, mais il est à la retraite. Oui. Sauf que Roger Federer n'est pas contre les exhibitions. Et là, bien en sûr. L'occurrence, ça serait une exhibition. Sarah, toi, notre tenniswoman.
Je m'en fous pas parce que quand vous avez un grand champion qui définitivement annonce sa fin de carrière, il faut faire une forme de tournée d'adieu et parce qu'il sera toujours marquant et qu'on aura toujours envie de le voir, ça permettra de mettre en lumière des sports, des pays, des associations. Enfin voilà. Et puis il y a quelque chose de vrai entre les deux, c'est qu'il y a un respect entre Nadal et Federer qui est juste extraordinaire. Arrête. Simon. Il y a un véritable respect entre les deux. Et voilà. Et c'est une manière de leur rendre hommage à tous les deux. Donc, ouais. Et ça fera le
Why
plaisir.
Okay. Attends, Simon. Simon n'a pas la parole. Simon n'a pas la parole.
Simon n'a pas la parole. Le match, tu iras.
Et bien sûr, il ira.
Non,
mais il n'a pas la parole.
Pas d'exhibition.
Alors pourquoi le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain n'organiseraient pas, pourquoi pas, une rencontre entre Federer et Serena Williams? Moi, je trouve que ça aurait de la gueule, ça aussi. Et puis, on peut inviter les Harlem Globetrotters, c'est puis pourquoi pas
Billie Jean King avec des pieds dans la poche.
Non, mais c'est génial. Mais il y a déjà le tournoi des légendes qui existe à Roland Garros. Donc voilà. Non, mais aujourd'hui, ce sont, Federer, désormais, c'est une légende. C'est plus un joueur de tennis. Donc effectivement, c'est
du spectacle. Il était déjà légende avant, quand même.
Oui, mais une légende.
Tu sais, je crois qu'il fera pas le tournoi des légendes de Roland Garros.
Non.
Christophe Furios sur ce match.
Ouais, moi je crois que ça fait partie du sport, quoi. Et le sport sert à ça aussi, cette espèce d'authenticité. Alors effectivement, on fête bien les jubilés nous dans le rugby. Je trouve que c'est une bonne fin pour les joueurs. Donc voilà, donc là c'est deux grands champions que enfin, je suis pas un spécialiste du tennis, et ça se voit. Mais j'ai l'impression que tous les opposent, en fait, quoi. Et, mais en même temps, il y a un énorme respect, comme le disait tout à l'heure Sarah. Donc, je trouve que, alors après, derrière, pourquoi, j'en sais rien. Il doit y avoir sûrement une dominante de business, forcément, parce que ça marche comme ça aussi. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, je m'en fous pas parce que ça va donner du plaisir aux gens, ça va, oui. c'est une belle récompense, ils ont pas besoin de ça, hein, mais je trouve que ça peut donner des vocations à des gamins, et je crois que le sport sert à ça aussi.
Ouais, voilà. Et on a envie de le voir aussi, ce match entre...
Moi, si il m'invite, j'y vais demain.
Et Federer, ouais, l'invitation là, hein. Est lancée, évidemment. La deuxième information dans le Zapping des GG à vous donner.
Ils sont jubilés au Five de Nanterre, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et un héroïste de talent, et disputera son dernier match avec des copains la semaine prochaine.
Et Christophe sera invité, évidemment, même s'il y aura moins d'appétence pour venir à mon jubilé, et ça, je l'entends. Deuxième information dans le Zapping des GG à vous donner. Pierre Gasly de plus en plus proche d'Alpine. On s'en fout, on s'en fout pas, Sarah?
Non, je m'en fous pas, bonne nouvelle.
Christophe Cessieux?
Je m'en fous pas.
Simon Dutin?
Je m'en fous pas.
Je m'en fous pas.
Ok, selon une information de l'équipe, Pierre Gasly va prochainement signer un contrat avec l'écurie normande Alpine où il formera un duo tricolore, on en parlait dans cette émission, ouais. Avec Esteban Ocon. La situation s'est débloquée récemment et donc Pierre Gasly pourrait quitter AlphaTauri, Christophe.
C'est génial, alors on va voir, on avait l'interrogation de savoir comment ça allait se passer entre les deux, qui ne s'apprécient pas forcément, même s'ils ont toujours été élevés ensemble, ils viennent de la même région, ils se sont bagarrés en karting quand ils étaient gamins. Bon, on verra ce que
ça aussi
donne.
On a envie de le voir.
Mais ça aussi, on a envie de le voir. C'est pareil que Nadal et Federer. Non, mais moi, l'image que j'ai, c'est j'ai envie de voir ces deux Français dans une voiture bleue. Ça va me rappeler ma jeunesse, tu vois, Simon, à l'époque des Ligiers gitanes, quand Patrick de Maillet était opposé à Jacques Lafitte, ou alors les jaunes et noirs de Renault quand René Arnoux était opposé à Alain Prost. Mais voilà, deux Français dans une voiture française, ça me plaît. C'est mon côté cocorico et je suis sûr que Marc Maillot, ça va lui plaire
oui,
aussi.
Oui, c'est pas que Marc, parce que je sens que Christophe Furios boit du petit lait, là. T'aimes bien ce genre de discours, hein.
Ouais, moi, je peux Pareil. J'aime bien. C'est un personnage, avec évidemment du talent probablement, mais aussi beaucoup d'ambition, et une marque française qui a beaucoup d'ambition dans un monde qui est difficile. Donc oui, j'espère que ça va marcher. Je suis impatient de le voir. Et voilà.
Ok, rapidement, en un mot, Sarah.
Faute de Grand Prix de France, on va tous être derrière Alpine et les pilotes français, voilà.
Très belle remarque.
On aime bien.
Très belle remarque.
Ouais.
Voilà. La France existe aussi en Formule 1 et on est très heureux pour ça. 9h56, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Nous allons parler de basket avec évidemment Stéphane Brun, notre GG, notre spécialiste basket, avec également Nicolas Batum. Jouer sur la rivalité, détester les Espagnols, est-ce le bon moteur avant cette finale? Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.